Bonjour, c'est Claire.
Salut, c'est Charlotte.
Vous écoutez ? Alors, on en parle ?
Avant d'écouter cet épisode, on voulait faire un trigger warning. En effet, nous allons aborder plusieurs sujets qui peuvent être troublants et réactiver ou activer un ou plusieurs traumatismes psychologiques.
Dans cette deuxième partie, nous parlons du burn-out et des drogues et on se posera la question « Qu'est-ce que tu détestes que les autres aiment ?» Nous sommes toujours accompagnés de Charlotte qui tient le compte La Célibataire La Vraie et de Flo qui tient le podcast Mise à Mal.
Réaction. Ce petit bip. Donc on a parlé de plusieurs tabous et je voulais parler aussi d'un sujet important parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui vivent ça, c'est le burn-out. Alors le burn-out, juste on l'explique en deux, trois mots, c'est quand il y a trop, quand c'est trop au niveau professionnel, et puis ça peut être au niveau aussi de la vie hein, perso, mais c'est vrai qu'on le connaît plus quand il est axé sur le côté professionnel de nos vies, quand il y a trop et que ça déborde et en fait qu'on n'en peut plus quoi. Donc c'est fatigue, c'est dépression et on veut plus aller au travail et on n'en peut plus quoi. Ça peut aller beaucoup plus loin et je voulais aborder ça avec vous parce que moi quand j'ai subi des trucs horribles quand j'étais dans une grosse, grosse entreprise, et que c'était avant d'être prof, j'étais en RH, et en fait, ça a été horrible. Mais vraiment, pendant un an, j'ai subi les remarques de mon manager, et le travail, c'était tellement intense, c'était un truc qui ne me plaisait pas, et il fallait que je passe par là pour pouvoir bifurquer, en fait, et je voulais pas du tout être en RH, je voulais être prof d'art plastique, bon bref, c'était l'histoire de ma life, et... ça a été vraiment trop compliqué et en fait, il y a eu un jour où ça a été trop. J'ai pris l'ordi dans ma main. Je me souviens, on était en réunion, je rigole parce que je me dis, t'imagines si vraiment j'avais fait ça, j'avais l'ordi dans mes mains et j'ai vu la tête de mon manager, c'était une femme, mais j'avais juste envie de la gifler. Et je me suis vue, tu sais, lui faire bouffer mon ordi, mais vraiment genre me lever et lui... Et je me rappelle, j'avais les mains qui tremblaient, elle me dit ça va, j'ai posé mon ordi, je commençais à pleurer, j'ai couru et je suis allée chez le médecin qui m'a dit non mais en fait tu fais un burn-out, donc je vais t'arrêter. Et je suis partie en colonie de vacances, en fait je faisais des colonies de vacances, j'étais animatrice et je suis partie. En fait le lendemain je suis partie et je suis revenue et j'en ai plus rien, enfin vraiment je pense que si je n'avais pas fait ça, je pense que j'aurais été badée chez moi pendant deux semaines et j'avais pas de solution en fait, j'arrivais pas à avoir de solution. Et ça va, ça n'a pas été non plus un burn-out qui s'est étendu puisque j'ai trouvé une solution vite et je me suis dit ok, bah, je vais me casser, je vais finir mon année et je vais postuler pour être prof pour voir si c'est bon. Et j'ai été acceptée, mais deux ans plus tard en fait. Et vraiment, j'ai subi les deux années d'après, mais je me dis, il doit y avoir des personnes qui subissent tellement le burn-out et tu te dis, quand tu le subis, tu ne trouves pas de solution en fait. Tu te dis, mais en fait, ça va être comme ça tout le temps.
Et en fait, au-delà de le subir, c'est aussi dur de se l'avouer. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, je pense, et je le vois, et je l'ai moi-même vécu, qui le vivent, le burn-out, mais qui ont du mal à mettre un mot sur le fait que ce soit ça. Parce que tu te dis, effectivement, t'es submergé par le travail, t'es fatigué, ça peut s'exprimer. Enfin, moi, à un moment, je vomissais avant d'aller... j'étais malade physiquement avant d'aller bosser. Et en fait, tu te dis, je peux pas l'exprimer parce que... Parce que tu dis, ouais, c'est un coup de bourre, mais qui dure, le coup de bourre est dur depuis des semaines, voire des mois, voire des années. Et tu dis, non mais ça va, je suis plus forte que ça, ou c'est un signe de fragilité si je l'exprime. Et c'est dur de se l'avouer à soi-même, qu'il y a, de mettre le mot burn-out, ou mettre de dire juste ça va pas en fait.
Ouais.
C'est hyper compliqué, sauf qu'à un moment, il y a plein de symptômes. Enfin moi, c'était vraiment un moment des symptômes...
Physique.
Et tu dis, en fait, c'est les gens autour de moi qui m'ont dit, non mais bah pareil, en fait c'est clairement t'es en plein burn-out.
Ouais, et toi, tu le vois pas.
Et toi, tu le vois
et
pas.
Et t'oses pas en parler parce que tu dis, je suis pas légitime de parler de ça vu que c'est mon travail.
Puis tu dis, je suis pas à plaindre. Moi, je bossais dans un gros groupe, je gagne bien ma vie, je bosse pas à l'usine. Enfin, tu vois, tu te dis, je suis pas à plaindre, c'est une mauvaise passe, etc. Et en fait, bien sûr que non. Enfin, c'est ton corps qui te dit, ça ne va plus.
Ouais, puis t'as plus goût. Et je me suis toujours dit... En fait, j'ai vécu avec des parents. Il y en avait un, tous les matins, c'était la cata pour aller au taf. Et l'autre, elle était là sur son vélo. « Je vais à l'école !» Tu sais, je le voyais genre « Salut !» Et en fait, tu vis avec les deux. Et je me dis « Mais jamais de la vie. En fait, je veux être de l'autre côté en mode « Ils font tout chier, machin. » Bon, ça, je parle pas de... peut-être pas que cette personne soit en burn-out, mais juste de pas vouloir aller au travail, en fait. De pas être bien dans ta journée. Déjà, ta journée, elle commence, t'as pas envie. Voilà, ah, alors déjà, c'est chiant. Toi, Flo, t'as déjà subi le burn-out ?
Oui, et juste avant de partager mon expérience, alors c'est vrai qu'on n'est pas à l'usine, il faut le rappeler. Encore ce matin, là, il fait froid. Je passais devant un chantier et les gars, ils travaillent dans le froid. Nous, on a froid juste le temps avec notre petit vélo de venir au studio et tu dis, ok, eux, ils souffrent physiquement. Ils vont le payer physiquement et déjà, ça doit être le cas, mais à 40, 50 ans, t'es flingué. Donc, je compare pas à ça. Par contre, il y a quand même une prolétarisation de certains métiers, surtout dans le milieu tertiaire, dans les agences de pub, dont il y a des horaires qui sont intenables. Tu finis à 23h, tu commences à vraiment très tôt, tu t'es appelé par le client à minuit. Et on se dit, c'est normal. Et surtout sur le truc, voilà, je suis pas à plaindre, j'ai fait les études pour faire ça, donc du coup, je vais serrer les fesses, ça va aller. Tu finis cramé et tu finis alors, soit par te détruire toi, soit par être méchant avec les autres. Et quand tu arrives dans des positions de pouvoir, tu fais payer à ceux qui sont en dessous de toi. Enfin, moi, les managers que j'ai eus dans ma vie d'avant, c'est des gens qui clairement se disent, bah moi, j'ai été traité comme ça, donc je vais traiter les autres comme ça. Et il faut que tu endures. Donc, je trouve qu'il y a un truc très vicieux. Et justement, ouais, le burn-out, c'est vu comme un signe de faiblesse, alors qu'au contraire, c'est se reconnecter avec qu'est-ce que c'est vraiment la vie. Est-ce que c'est être fatigué au point de plus avoir envie de voir tes potes, de plus avoir envie de faire l'amour. Enfin, il y avait des trucs, moi, on a tous parlé de symptômes physiques qui nous ont alertés. Ils sont psychiques avant d'arriver à être physiques. Et burn-out, c'est vraiment ce truc de se cramer. On peut le payer pendant des années après, je le dis, parce que ne forcez pas sur la corde, parce que vraiment, moi, je récupère encore de mon burn-out qui s'est passé l'année dernière, où j'avais pas constaté, mais pendant 6 mois, il y a une forme de lassitude qui s'est installée. Après, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à me réveiller, je pleurais le soir, j'avais plus envie de faire l'amour. Vraiment, et tout dans ta vie commence à être grisé et t'atteins des niveaux qui se ressemblent à la dépression, quoi. Et moi, c'est en allant aussi chez le médecin, je lui dis, bah voilà ce qui se passe, je suis un petit peu fatigué. Et moi, je pensais vraiment, je me suis jamais fait arrêter de ma vie. Parce que genre, l'éthique travail est hyper forte, moi. Et du coup, je voulais pas me faire arrêter. Il m'a dit, ouais, bon, bah, je vais vous arrêter. Je fais, oui, c'est vrai que 2-3 jours, ça me ferait du bien. Il me dit, pardon, 2-3 jours, ça va commencer par 2-3 mois. Et tu reviens me voir et on verra si on rallonge pas de 2-3 mois encore, quoi.
Et tu le vis trop mal. Moi, je l'ai trop mal vécu.
Hein. Et ben, moi, je me suis... Non, en fait, moi, c'est vraiment le fait qu'un professionnel me le dise. Je me suis dit, ah ouais, à ce point. Et je lui ai dit, ouais, mais je vais perdre mon taf si vous m'arrêtez 2-3 mois. Et il m'a dit, mais si vous perdez votre taf et que vous gagnez la santé, vous y gagnez au change.
Ouais, c'est exactement ça.
Et vraiment, ben, ce professionnel-là, vraiment, il m'a sauvé la vie.
Il t'a écouté.
Ouais, il m'a écouté. Et il m'a écouté là où moi, j'arrivais plus à m'écouter. Et ça, c'est vraiment signe d'un bon médecin. Et en fait, je me suis rendu compte, ouais, ok, il est très probable que je retourne à mon taf et que je le perde. Mais en fait, je vais gagner autre chose. Et je suis retourné à mon taf. Il s'est avéré qu'en fait, ils m'ont pas viré. Ils m'ont dit, est-ce que t'es heureux dans la dynamique qu'on a, etc. J'ai dit non. Ils m'ont dit, est-ce que du coup ça te semble approprié qu'on continue? Je pense que non. Donc, c'est étonnant aussi de voir qu'un taf qui te traite plus ou moins mal le fait pas exprès, en tout cas moi, celui dans lequel j'étais. C'est juste que c'est tellement une culture, une habitude pour ces gens-là de bosser comme ça, que quand ils réalisent pas que ça peut être très violent pour certains types de personnalités ou de rythmes, quoi.
Ouais, c'est destructeur, hein. Ouais, c'est hyper destructeur. Et moi, ce qui me scandalise, c'est, et je suis d'accord que c'est un vrai tabou, encore hier soir, j'étais du coup avec mes anciens collègues de la boîte où moi, j'ai fini par partir. Alors que j'adorais... En plus, ce qui est hyper difficile, c'est que j'adorais mon travail, mais ils me détruisaient, en fait. Et bref, et donc je vois mes anciens collègues hier qui me disent la semaine dernière, burn-out de X, la semaine d'avant, burn-out de... Et toutes les semaines,
ça
dans cette société.
Pas, les gars, ouais.
Et en fait, je leur ai dit, mais il n'y a personne qui prend le sujet. En fait, ils disent, ben non, ça fait partie aujourd'hui. En fait, il y a un espèce de truc, ça fait partie de la vie, parce que de la vie d'entreprise, en fait. Et toutes les semaines, vraiment, il y a, en plus le turnover et de, enfin, les gens.
Déjà, il y a des signes, en fait.
Il y a plein
ça,
de signes, exactement. Et moi, enfin, dans cette boîte-là, j'étais dans une équipe où toute l'équipe, en 2-3 ans, a fini par partir. Et pareil, on se dit, ça fait partie de la vie d'entreprise, etc. Et il y a un de mes collègues qui a mis... Vraiment, on est dans les sujets. Il y a un de mes collègues qui a mis fin à ses jours. Et en fait, sans explication, donc je ne mets pas du tout fin. Je suis pas apte à juger et à mettre des mots là-dessus. Mais pour moi, à partir de ce moment-là, que son son suicide soit lié à ça ou pas directement, je pense que vraiment, ça m'a scandalisée. C'est d'ailleurs ça qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille en me disant vraiment fuis cette boîte. Mais je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas eu des démarches derrière d'analyse. D'un moment, il y a un souci que ça soit lié ou pas à ça. Mais quand tu as un turnover, quand tu as toutes les semaines des gens qui se mettent en burn-out, à quel moment l'entreprise, que ça soit volontaire ou pas, hein, je ne dis pas que c'est une entreprise machiavélique qui veut détruire les gens, mais à un moment, tu as une responsabilité, je pense, éthique et morale de faire en sorte que les gens soient bien, quoi. Après, le burn-out, tu peux l'avoir pour moult raisons, et ça arrive dans des sociétés qui sont aussi très bien. Hein, je pense aussi un... Mais c'est scandaleux qu'il n'y ait pas de mesures derrière.
Tu peux l'avoir aussi dans ta vie personnelle.
Ouais. Ouais.
Et ça arrive dans des milieux aussi associatifs. Hein. J'ai été dans ce secteur-là. Il y a énormément de burn-out dans le milieu associatif. Ce n'est pas que les grosses méchantes corporations.
Ah même chez les fonctionnaires. Hein. Oui. Chez nous, il y a beaucoup de profs qui sont en burn-out. Et... c'est qu'ils se disent, de toute façon, vu que je n'ai connu que ça, je ne peux pas trouver peut-être d'autres solutions, peut-être de travailler en entreprise, parce qu'eux savent aussi qu'il y a ce genre de choses qui arrivent en entreprise, dans certaines entreprises, et qui ont peur. Et qui, en fait, le burn-out aussi est associé à une énorme fatigue chez les fonctionnaires aussi, qui sont lassés de beaucoup de choses et qui sont fatigués parce qu'on n'est pas épaulés. Claire, toi, tu as ce burn-out, tu l'as déjà vécu?
Alors, à l'époque, ça s'est passé il y a 15-20 ans. Donc, c'était mon premier poste. Et en fait, alors, je ne sais pas si le mot burn-out correspond à ma situation, mais en tout cas, j'ai vécu du harcèlement moral qui m'a mis dans un état lamentable. Et en fait, je me suis fait licencier. Je suis passée par une période où, dans laquelle j'étais au chômage. J'ai pris énormément de poids à ce moment-là. Et alors, j'ai une question à vous poser à tous les trois. C'est à présent, quel est le rapport que vous avez avec l'entreprise? Parce que pour ma part, il m'a fallu 4 à 5 années pour me remettre psychologiquement de ce traumatisme. Parce que vraiment, moi, ça a été un marquant... Enfin, ça a été vraiment un virage dans ma vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui... j'ai un rapport à l'entreprise qui est tellement détaché et en fait, juste, je m'en fous. C'est-à-dire que il y a mes horaires, je les fais, il y a mon boulot, je le fais, et il est hors de question pour moi de donner de mon temps à l'entreprise. Il est à présent, aujourd'hui, hors de question, pareil, que je m'investisse en dehors de ma charte de poste. Alors, ce qui fait que j'ai un rapport très détaché avec mes collègues, j'ai un rapport très détaché avec les codes de la société, je suis anti-corporate à mort. Et je sais que je suis... en fait, pour moi, maintenant, le pire, entre guillemets, c'est que je me fasse licencier. C'est quelque chose que j'ai vécu, je m'en suis remise. Et en fait, maintenant, je me dis, au pire, qu'est-ce qui se passe? Je me fais virer et puis en fait, c'est pas grave. Mais ça a été un chemin de reconstruction qui a été extrêmement long pour ma part. Mais ouais, j'ai vécu quelque chose au travail. Et en plus de ça, j'étais très jeune. Donc c'est vrai que ça m'a marqué et qu'aujourd'hui, j'ai un comportement qui fait que je passe un peu pour la détachée de service, ouais, pour celle qui s'en fout, pour celle qui est juste là.
Non, mais
là,
à un moment, c'est normal de juste faire ton travail, en fait. Mais c'est vrai que je pense qu'on se met nous-mêmes la pression. Après, il y a la pression plus des métiers qu'on exerce. Mais il y a nous-mêmes une pression parce qu'on est investi, parce qu'on a une conscience professionnelle, etc. Mais en fait, ça devrait être juste normal de ne pas donner de son temps personnel. Enfin, un travail, ça reste un travail.
Sauf si tu l'aimes. Non, attention, c'est pas ce que je voulais dire. Sauf, moi, je ne calcule pas mes heures. Travail, c'est devenu plus, quoi.
Ouais, mais c'est ton choix à toi,
tu vois. Oui, mais exactement. Et quand j'étais en entreprise, pour répondre à ta question, parce qu'on va répondre à sa question, on est pro. pour répondre à ta question, l'entreprise, je la méprise. Alors, je sais que toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Je sais qu'il existe une multitude d'entreprises. J'ai travaillé 8 ans en entreprise. J'ai même fait une start-up. Ça a duré 3 semaines. J'ai fait, mon Dieu, je me casse d'ici. Je ne dis pas que toutes les start-up sont pareilles. Effectivement, je ne généralise pas. Mais je la méprise pour le double de mon salaire, qui est misérable. Parce qu'on peut parler d'argent, puisqu'on parle, c'est tabou. Mais on n'en fait pas un tabou. Je suis payée 1500 net en tant que prof. En entreprise, j'étais payée plus. On m'a proposé un poste pour le salaire qui est vraiment un peu plus. je ne retournerai pas en entreprise. Je méprise la hiérarchie. Je dis pas que la hiérarchie... En fait, si je retourne en entreprise, c'est mon entreprise que je crée, tu vois. C'est moi la boss. Je ne veux pas quelqu'un au-dessus de moi. Je ne dis pas que tous les managers sont méprisables. Pas du tout. J'en ai déjà eu qui sont excellents. Que ce soit homme ou femme, d'ailleurs. Je méprise l'entreprise la plupart du temps. Je méprise le statut de la femme. En fait, je vois comment la femme... J'ai été en RH, j'ai entendu les pires choses, j'ai entendu les pires bails de la terre. J'ai entendu « Ah, elle vient d'où ?»« Oh, c'est pas une école de co, ça, vas-y, on dégage. »« Ah, elle ressemble à quoi ? Vas-y, on n'a même pas la photo, dégage. »« Ah, il est vegan, il va nous faire chier quand on va manger le midi, tu dégages ça. » J'ai entendu les pires bails de la terre et je la méprise, sachant que j'ai déjà eu de très bonnes expériences en entreprise. Mais je ne retournerai pas en entreprise, je ne peux pas. Flo ?
Moi je retournerai, alors je sais pas si j'y retournerai ou pas, en tout cas aujourd'hui je suis freelance. Moi ce qui s'est passé après mon burn-out, c'est que j'ai été dans une autre entreprise et ça s'est pas bien passé pour d'autres raisons, et j'ai remarqué qu'en fait c'était cette espèce de, enfin faut savoir que le code du travail est régi par le degré de subordination, c'est vraiment dans la loi, c'est marqué, t'es subordonné. Et du coup, il y a quelque chose, moi, qui me dérange profondément philosophiquement dans le fait d'être subordonné à quelqu'un légalement. Alors, je ne veux pas faire le vieil anard de base ou l'adolescent, mais je ne suis pas à l'aise avec ça, en tout cas pour l'instant. Donc, du coup, je suis devenu freelance. Et j'ai d'autres dépendances, évidemment. Je dépends de mes clients, je dois faire du commercial et tout, mais il y a quelque chose où c'est moi qui décide. Et il y a des mois où je fais zéro parce que je ne me suis pas bougé le cul. Et il y a des mois où je fais 5 000. Pour parler d'argent, quoi. En septembre, j'ai fait 5 000 balles. Et en octobre, j'ai fait zéro. Bah ouais, mais tu vois, genre, et là, on arrive à fin novembre, j'ai gagné aucun contrat. Ouais. Donc, tu dilues tes 5 000 balles. Tu peux t'en vouloir qu'à toi. Ouais, puis c'est pas que m'en vouloir. En fait, j'ai choisi. Genre là, j'avais pas envie de bosser parce que je me consacre à mon podcast. Et du coup, j'ai les 5 000 balles, tu les dilues sur, pour l'instant, 2 mois, peut-être 3. Donc, il y a un truc où c'est mes choix et je suis complètement OK avec ça. Donc, voilà, l'entreprise, moi, j'y retournerai pas. Ou alors, dans un milieu qui m'intéresse, qui est plutôt maintenant le milieu des médias, de la création, etc. J'ai défini des critères sur lesquels je serais OK d'être subordonné parce que l'intérêt que j'y trouve, moi, est plus grand que les défauts que je pourrais trouver dans le salariat, quoi.
Charlotte ?
Du coup, pour répondre à la question, moi, ça ne m'a pas dégoûtée du monde de l'entreprise. Par contre, ça a remis beaucoup de choses en perspective. Et je te rejoins là-dessus où, moi, avant, j'étais... hyper impliquée, j'étais passionnée par mon travail, et j'avais une force de travail assez forte. Par contre, maintenant ça a revu même ma vision du monde du travail, et moi j'ai fait un peu le parcours standard école de commerce, bosser dans le marketing, dans des gros groupes, etc., où tu dois évoluer, changer de poste tous les 2-3 ans, monter ton truc, enfin tu vois, faire ta carrière, à 30 ans faut être à tel poste, etc., et j'étais vraiment dans ce truc... faut que j'évolue, faut que je gagne temps. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce parcours un peu tout tracé et qui est aussi encouragé par mon entourage. Enfin, tu vois, parce que j'évoluais aussi vite. Et à partir du moment où là, ben, tout a vrillé et je suis partie, maintenant, je vois plus du tout le travail de la même façon, quoi. Et mes critères d'entreprise sont plus les mêmes. Pareil, le choix du salaire et de peut-être renier sur ton salaire, par contre, pour faire un boulot où tous tes horaires te conviennent mieux, où l'entreprise te convient mieux, où les valeurs de la boîte te conviennent mieux, c'est un vrai truc. Et je suis plus du tout dans ce côté carriériste. Je suis plus du tout dans cette recherche de l'intitulé de poste parfait qui va bien faire sur LinkedIn, etc. Voilà, là j'ai tenté l'entrepreneuriat, j'ai tenté le freelance, enfin je me tâte et je me dis bah c'est pas grave à 30 ans et quelques voilà, d'être des fois instable, d'avoir des périodes de chômage, d'avoir de choisir. Là j'ai fait le choix par exemple de CDD. Là j'enchaîne les CDD parce que j'ai envie de découvrir d'autres trucs, de faire d'autres métiers, et c'est un choix qui est peu compris par mon entourage, de dire mais on m'a proposé un CDI il y a 2 semaines que j'ai refusé parce que j'ai préféré un CDD. Parce que la boîte me convenait mieux, les missions me convenaient plus, les horaires permettaient de gérer à côté de ça d'autres projets. Et ouais, il y a quelques années, avant ce burn-out, j'aurais dit, bien sûr, le CDI, la sécurité, le truc, j'y serais à la fond. Mais là, non.
C'est le Graal, le CDI.
Ouais, voilà. Et non, en fait, non. Ça, vraiment, mon rapport au travail n'est plus du tout le même qu'avant, quoi.
Et la peur du trou dans le CV, moi, ça m'avait pas mal hanté. Genre, comment je vais justifier tel truc et tout. Mais en fait, juste sois aligné avec ce que t'as fait. Et en plus, il va t'arriver des trucs ouf. Enfin, genre là, moi, j'ai vraiment fait ce choix d'être free et de m'occuper de mon podcast, qui est en plus un projet à la base loisir que j'essaie de professionnaliser, toute proportion gardée. Mais ça permet d'avoir des discussions cool comme là, d'être invité dans d'autres émissions et tout, et de me dire, mais peu importe en fait comment, de penser avant à ton CV, c'est juste, vis l'expérience, il va t'arriver des trucs cool. Et juste, je pense que le burn-out, ça vient aussi d'un manque d'alignement où tu perds plus d'énergie que tu n'en gagnes dans ton métier. Et là, en ce moment, moi, j'ai jamais autant taffé de ma vie. Récemment, j'ai été fatigué, donc je me suis dit, ok, calmos. Genre, par exemple, hier, j'ai vraiment rien fait et j'ai calmé mon système nerveux et genre détente, quoi. Mais ça, c'est pas du burn-out, c'est juste de la limite physique que je sais constater. Par contre, tout ce que je fais me génère tellement d'énergie que c'est impossible que je me crame sous ce mode-là, quoi.
C'est de la bonne énergie, en fait. C'est exactement de la bonne énergie. La dernière fois, Claire en discutait et elle m'a envoyé « Repose-toi quand même ». Et je lui ai répondu « Mais j'ai pas envie de me reposer parce que là, j'ai trouvé cet équilibre qui est un peu effectivement intense entre le travail qui me procure beaucoup de bonnes vibes et tout, où j'arrive à m'occuper de mes élèves. Je me suis mis en mission, genre pas Mère Teresa, mais genre en mode « Vas-y, on y va ». Et je travaille énormément, plus le podcast. Je ne pensais pas que ça allait prendre... que ça allait avoir cet impact, en fait. Et moi, on l'a pris comme une vague dans la gueule. Et en fait, évidemment que moi, c'est un challenge. Et tu vois, je le prends, j'en veux encore plus. Et je sais exactement comme toi, exactement... on vient de le dire, une fois que tu l'as vécu, tu connais ta limite, en fait. Vu que tu l'as déjà dépassée, maintenant, tu sais. Et il y a eu un moment où, effectivement, je me sentais vraiment fatiguée. Le soir, j'ai rien foutu, j'ai coupé Instagram, les DM, je les ai lus le lendemain, mais en fait, et j'ai aussi appris un truc, c'est qu'il faut se le dire, et ça fait mal des fois l'ego, personne n'est indispensable. En fait, dans le milieu professionnel, mais même Macron ne l'est pas, en fait,
ta gueule, Macron.
Non, mais en fait, personne n'est indispensable, c'est-à-dire si tu n'es pas là, en entreprise, le monde tourne. Si même un boss n'est pas là, j'ai déjà vu des big boss ne pas être là parce que voilà, il y a eu des choses assez importantes et ça a tourné en fait. Alors quand c'est ta boîte, c'est ta boîte, donc c'est à toi de voir si tu peux trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Et même quand t'es fonctionnaire, si t'es pas là, t'es remplacé ou pas, parce que nous, on manque de remplaçants. Mais je veux dire, ça tourne, les gamins sont gardés par les enfants, et tu te mets une pression...
Les gamins sont gardés par les enfants
C'est la fatigue.
Quelle est cette école étrange?
Ils s'autogardent, ils se démerdent.
C'est ça. On les met dans une salle, entre eux.
Il y en a un qui se lève et qui dit « Bon, alors aujourd'hui, on va faire ça ». Non, mais les gamins sont gardés par les parents s'ils peuvent. Ça dépend du... là, avec ce putain de Covid, ça dépend du protocole, mais... tu peux... Alors ça, c'est ta go.
Pardon.
Ce n'est pas la bouteille de
pinard. Ah, c'est pas la parole.
Dommage. Allez, il est midi, on y va.
Oui, effectivement. Donc, tu connais ta limite. Une fois que c'est vrai, malheureusement, on connaît souvent ses limites quand on a subi certaines choses.
Et en fait, je trouve que tu apprends... C'est marrant parce que ça ressort dans tous nos témoignages. En fait, tu apprends à t'écouter. Je trouve qu'aujourd'hui, on a, je pense, tous changé nos rapports à plein de choses, en fait, à notre travail, mais aussi à nos passions et tout ça. Et en fait, on s'écoute et quand on apprend à écouter en fait son ressenti, ses émotions, son corps, et en fait on apprend à dire à dire stop, et je pense que tout ça on l'a appris, en fait on le faisait, j'ai l'impression, tous pas avant, et on le fait maintenant beaucoup plus.
C'est encore dur de dire non, quand même.
Mais ouais, je pense que c'est encore une fois une question d'objectivation des critères. Moi j'ai vraiment noté qu'est-ce qui fait que tu es en train de passer dans le burn-out ou dans la fatigue, et d'objectiver des critères, parce que des fois tu te rends pas compte, genre un truc con, mais moi j'ai remarqué que si je devenais impatient quand je discutais avec les gens, c'était déjà un critère que j'étais trop fatigué, et donc il fallait faire attention à ça, ou que je mangeais trop, par exemple. Il y a un truc que quand je commence à surcompenser sur du sucré, c'est que je suis en train d'aller dans et que ça se répète dans un état de fatigue trop avancé, etc. Donc vraiment objectiver, faire une liste et se dire, ok, si j'en coche 3, c'est que là il y a quelque chose qui se passe mal, plutôt que d'être tout le temps en train de s'écouter, parce que le problème de ces moments là c'est qu'on s'écoute plus, donc du coup tu passes dans un paradoxe.
C'est vrai.
Donc vraiment objectiver, te dire, ok, je prends le temps, est-ce que je coche des critères, oui, ok, pause. Vraiment, je pense que c'est important.
Et moi, je me suis beaucoup retrouvée aussi dans les symptômes que tu avais. Enfin, c'est la perte de sommeil, les vomissements, les maux de ventre.
Les pleurs.
Et puis vraiment, la crainte d'être confrontée. Enfin, moi, pour ma part, c'était du harcèlement moral qui a complètement dégénéré. Et j'en suis tombée malade. Et en fait, quand je sais que... je connais mon état normal. Je sais que quand je me retrouve dans, à être confrontée à cet état, c'est qu'en fait, il y a forcément quelque chose qui ne va pas.
Donc, tu vois que ça change. C'est ça aussi qui alerte.
Bien
sûr. Cette alerte...
Il faut s'écouter, quoi.
Voilà, mais sur le moment T, quand ça t'arrive, et je pense que les gens qui écouteront cet épisode et qui peut-être subissent du harcèlement ou qui subissent une pression et le burn-out s'installe petit à petit, c'est vrai que sur le moment... Ils sont dans une sphère.
Tu t'en rends pas compte. Non.
Et là, dernièrement, j'ai rencontré une personne qui en fait, partait de son taf, qui ne savait plus, qui était perdue, tu vois. Et tu sens que cette personne est dans une sphère et que malgré le fait de dire « j'ai déjà vécu ça, ne t'inquiète pas, ça va aller », tranquille, tu vois, genre vraiment tranquille, prends du temps pour toi, ce temps, tu vas vraiment en avoir besoin. Et en fait, t'es dans cette sphère, t'entends pas. Tu sais, il est vraiment... cette personne est vraiment dans cette période où elle n'entend pas. Mmh. Elle n'entend pas ce que tu dis. Je sais que, à mon avis, ce que je dis, je pense que vous l'avez vécu, parce que vraiment, c'est vraiment cette petite période où t'entends pas. Juste, laisse-moi. Déjà, j'ai peur de me faire virer, j'ai peur de... laisse-moi, et je n'entends pas.
Et la réponse à cette question, si c'est « ça va aller », inquiétez-vous. Parce que moi, quand on me disait fais gaffe, Flo, quand même, là tu forces un peu, je dis ouais, là c'est un peu dur, mais ça va aller. Mmh. Là, c'est déjà, t'es autre part. Mmh. Quand on me dit là, peut-être tu forces, je dis franchement, là, tout va bien, je me sens bien. C'est ça le critère. Donc, ça va aller, c'est que tu es en train de reporter ton bien-être.
Ça
veut dire que tu l'as pas maintenant. Mmh. Et ça, c'est le seul critère. Si tu te sens mal maintenant, fais pause et vois comment tu peux corriger. Quoi.
Et personne ne t'en voudra. Enfin, je veux dire, c'est toujours touchy, parce que forcément, on a peur. On a peur de perdre sa place en entreprise ou même dans son travail. On a peur de se décevoir. Et je rejoins ta remarque sur le harcèlement moral. Quand j'ai fait ce burn-out, cette personne me l'a dit, a verbalisé, genre, non, mais attends, on n'est pas au pays des bisounours. Mais quand on est nul comme ça... Et en fait, tu sais, genre, tu l'entends et c'est comme la petite graine, c'est Inception. Je l'ai cru. Et quand je lui avais dit que je voulais être prof, toi, prof, mais en fait, lol, quoi. Enfin, je rigole. Genre, je me rappelle, enfin, vraiment, je... Et là, en fait, non. En fait, juste personne n'a le droit de vous parler mal. Personne n'a le droit... en fait, juste, exactement ce que tu disais, Flo, si tu te sens pas bien, pause. En fait, juste pause. Et personne t'en voudra, en fait. Personne t'en voudra. Et c'est la meilleure des choses à faire, en fait.
C'est clair.
Ouais, et c'est ce que tu disais, Claire. Genre, tu l'as vécu de te faire licencier. Et donc aujourd'hui, t'es là, genre, qu'est-ce qui va se passer ? Si je me fais licencier, quoi ? Et c'est un peu la question à se poser quand t'as une angoisse. C'est de te dire, OK, de quoi t'as peur ? Déjà, identifier. Une fois que t'as identifié, disons le licenciement, il se passe quoi si t'es licencié ? Et vraiment, de faire la liste des conséquences. OK, tu perds ton taf, mais peut-être t'as le droit au chômage. Calcule ce dont t'auras le droit au chômage. Est-ce que tu peux vivre avec ça ? Si tu peux pas vivre avec ça, comment est-ce que tu peux compenser ? Peut-être un mi-temps dans un truc qui te prend moins de temps. Enfin, de te faire un plan et du coup de te dire, OK, maintenant je suis préparé au pire. J'ai pas besoin de forcer contre mes limites parce que si ça arrive, je suis en sécurité quand même.
C'est dur aussi pour des gens... Là, si je me fais virer, je me dis, il y aura peut-être cette histoire de chômage et tout, mais je pense à tous ces gens aussi qui n'ont pas... Tu sais, je pense vraiment à des professions qui gagnent vraiment peu. Je pense à une pote qui fait le ménage et tout, et je me dis, elle gagne vraiment un salaire de merde, et si elle est virée, elle a des enfants. Et peut-être que pour elle, c'est une impasse, en fait, tu vois. Et je me dis, c'est... Moi, je suis plutôt du côté où il y a toujours une solution. En fait, elle viendra peut-être pas tout de suite, elle viendra peut-être après, mais en fait, il y a toujours quelque chose qui vient à toi où tu auras peut-être de l'énergie à ce moment-là, mais en général, ça n'arrive jamais au moment où tu en as besoin. Et il faut prendre confiance dans le sens où ça va arriver et il faut s'accrocher. Mais il y a des moments, c'est très, très dur et c'est pour ça qu'on n'ose pas en parler. Et si on pouvait en parler plus librement, peut-être qu'on aurait plus de solutions parce que des gens viendraient à toi avec peut-être une autre solution auquel tu n'as pas pensé, en fait, à laquelle tu n'as pas pensé.
Oui, parlez-en. Moi, j'ai trouvé des solutions grâce à juste avoir exprimé ce qui se passait pour moi. Il y a des gens qui m'ont offert des solutions, je ne m'y attendais pas du tout, qui m'ont permis de m'en sortir. Donc, c'est très vrai ce que tu dis.
Et j'aurais aimé en parler plus tôt. Mais des fois, il y a des signes comme ça et je me dis peut-être des gens qui veulent vraiment prendre qui en peuvent plus et il faut en parler, en fait c'est pas tabou puisqu'en fait on l'a tous plus ou moins subi et peut-être même aller sur des, enfin se cultiver là-dessus, sur clairement que, enfin il y a vraiment des ouvrages Je pense à Le corps n'oublie rien, ce livre qui est vraiment ouf, parce qu'en fait, tout ça, le corps, il n'oublie rien, en fait, il va l'imprimer. Et si tu communiques pas là-dessus, tu peux te trimballer après des casseroles pendant très longtemps. Mmh. Comme tu dis, le burn-out, toi, tu subis encore les conséquences. Et je me dis, il faut communiquer. J'avais alerté le DRH à l'époque, hein, qui me veut dire, non, ça va, elle va changer de secteur, ça va aller. Jamais changé de secteur, c'était juste l'enfer. J'enchaîne avec un autre sujet aussi, parce que ça nous touche tous. La drogue et l'alcool. Alors, je voudrais qu'on en parle quand même. Parce qu'en fait, la dernière fois, c'est encore une fois, c'est que des trucs que j'entends, qu'on entend, et ça, du coup, ça nous inspire pour faire des épisodes. J'ai entendu la dernière fois un pote qui disait à une meuf, parce qu'elle était là en mode, ouais, vas-y, j'ai envie de me mettre une petite murge et tout, j'ai envie de boire et tout, et le mec dit, ah bah, il faudra pas après que tu te plaignes, qu'on dise que t'es une pochetronne, tu vois. Bah, j'étais là, mais attends, mais ferme ta gueule, enfin, juste, elle a juste envie, enfin... Là, elle verbalise le fait qu'elle a envie de boire, de picoler. Ah oui, mais ça commence comme ça, puis après on connaît le petit verre de vin et tout, tous les soirs. J'étais là, mais... en fait, on t'a pas demandé ton avis, juste elle a dit qu'elle voulait se mettre une murge, tais-toi. Et en fait, donc, encore introspection, et j'étais là, mais...
Oh là là, bon. Pardon.
Eh ben, elle touche le micro, ça commence. Elle casse tout le studio, putain.
Pardon.
Ça t'a.
Ça t'énerve quand on est plus loin de boire.
Ouais, ouais, je suis toujours là quand il faut pas.
On a une bouteille de Beaujolais de toute façon devant nous, mais tu sais, c'est encore. Mais je parle aussi dans les relations, etc. Même que ça soit relation homme-femme, etc. Mais je pense aussi à l'autre podcast du coup qui est géré à Alors Meuf Raconte. On a souvent des histoires. C'est nous, on picole pendant l'épisode et j'ai reçu un message d'une personne qui disait mais. Par contre, c'est enfin, allez-y mollo sur l'alcool. Bon, si tu passes par là, je t'ai envoyé un petit message aussi, mais je disais juste, bah en fait, non, pas mollo. Enfin, on fait toujours à chaque fois, tu sais, la petite, voilà, il faut boire avec modération. Et moi, je rajoute ou pas. Mais mais juste, en fait, tu sais, je sais qu'on peut abuser, en fait, c'est encore tabou, on en parle aussi, il faut faire attention. Si on a eu les énièmes campagnes anti-alcool, il faut faire attention au volant, machin, bon, ça, ok, il n'y a pas de souci, mais des fois aussi, on ne parle pas des abus, en fait, des abus, et que c'est aussi une zone de réconfort, et c'est une zone aussi qui peut... bah justement, on parlait de violence sexuelle. Enfin, moi, je sais que pendant 5-6 ans, j'ai abusé de drogue, j'ai abusé d'alcool, enfin, ça a été mon refuge, en fait. Alors là, je ne fais pas l'apologie de tout ça, en fait. La drogue, enfin l'alcool, ça rentre dans les drogues aussi, hein. Mais je ne fais pas l'apologie, mais juste, on n'en parle pas, en fait. On n'en parle pas. Et si, encore une fois, j'ai écouté un épisode, encore une fois, de On The Verge. Il y a un épisode sur le chemsex. Donc le sexe qui est... sous substance, voilà, merci. Donc du coup ça m'a chamboulée parce que j'ai eu aussi une expérience comme ça et en fait ça m'a complètement je sais pas, ça, j'ai vrillé en fait pas moi mais la personne était sous drogue et bah maintenant j'y repense et je suis dégoûtée en fait, je suis dégoûtée parce que moi j'ai pas voulu ça comme ça en fait. Et moi je sais pas comment dire. En fait, on m'a dit aussi qu'une personne qui était sous drogue, qui avait une relation avec la drogue, ne pouvait pas avoir de relation autre, en fait, parce qu'elle était déjà en relation avec la drogue. Et je sais pas si vous avez déjà trouvé refuge dans ces substances-là, mais comment vous vous en êtes sorti? Est-ce que vous en avez parlé ou est-ce que c'est resté tabou, en fait?
Juste sur l'alcool, moi je pense que c'est aussi important d'entendre les gens qui te disent mollo. pas tant parce qu'il y a un truc qui est un peu pervers, c'est de vouloir te contrôler toi en te disant limite.
Non, mais c'est safe de dire oui.
Non, mais tu vois que lui ils te disent bois pas trop, bah en fait t'as raison de dire bah je fais ce que je veux en fait, oui. C'est moi qui décide. Par contre, que certains aient des limites avec l'alcool, on peut l'entendre. Je sais que pour Mise à Mal, on boit aussi parce que c'est un apéro. Il y a des gens, pas des gens en fait, il y a une personne qui m'a dit, mais je l'ai quand même écouté. Il y a une personne qui m'a dit, mais ouais, c'est peut-être un peu border de faire l'apologie de l'alcool. Je fais pas l'apologie de l'alcool,
non,
c'est
juste
que
on boit quoi.
On boit parce que moi, Mise à Mal, c'est de parler de sujets sur la masculinité plus ou moins tabou, comme on le ferait à un apéro. Et donc, pour pas mentir, je prends un apéro. Mais je peux comprendre que ça dérange des gens, que l'alcool soit toujours un facilitateur. Et à terme, peut-être qu'il y aura plus d'alcool. Enfin bref, mais
aujourd'hui, il y en a pas. Hein.
Aujourd'hui, il y a du Beaujolais, mais il est
pas
ouvert.
Il est fermé pour l'instant.
Mais oui, et on n'en a pas besoin. Je pense que c'est important aussi d'envoyer le message. C'est vrai que ce matin, on ne boit pas et ça ne nous empêche pas du tout de parler de manière libérée. Donc voilà, je voulais juste dire qu'il y a un mouvement aussi un peu hygiéniste en ce moment qui est attention, de tout limiter, de faire attention à tout. Bon, donc on fait encore ce qu'on veut du moment que ça ne blesse pas les autres et soi aussi, tant qu'à faire. Mais oui, moi j'ai eu une période où je me suis réfugié dans la drogue dite récréative, parce qu'il faut que ça soit mignon, mais beaucoup de MDMA et d'ecstasy. Et en fait, j'étais vraiment accro. Hein. Genre, je faisais vraiment 2-3 soirées par semaine où je prenais 5-6 paras, ce qui est vraiment beaucoup. Donc défoncé pendant plus de 10-12 heures d'affilée. Voilà, et avec de l'alcool en plus, etc. Pendant presque un an, j'ai clairement perdu des neurones. Et en fait, ça s'est arrêté, mais d'un coup, j'étais addict parce que j'étais malheureux. Et en fait, le jour où la source de mon... Alors, je reste volontairement flou parce que j'ai pas envie de raconter ma vie. Mais le jour où la source de mon malheur s'est arrêtée, que j'ai eu la perspective d'un avenir vraiment meilleur selon les conditions que je voulais, j'ai pas fait exprès, mais j'ai totalement arrêté la drogue.
T'as pu arrêter d'un coup ?
Du jour au lendemain. Alors vraiment, c'était une habitude d'y aller 3 fois par semaine, m'arracher.
C'est très psychologique aussi. Hein.
C'est psychologique, mais parce que vraiment, tu l'as dans le mot, se déchirer. C'est vraiment, tu veux te déchirer toi. Il y a quelque chose que tu veux découper de toi-même, le mettre à l'extérieur, l'enlever, le cacher, je ne sais pas. Mais il y a vraiment, et à partir du moment où je me suis réconcilié, je n'ai plus eu besoin de m'arracher ou de me déchirer.
Mais est-ce que tu penses qu'en ayant fait ça, quand tu étais dans ta période tu te déchirais, moi, je n'avais aucune limite. Hein. Mais j'avais vraiment aucune limite. J'aurais pu y passer, en fait.
Mais je pense que dans ces extrêmes-là, il y a aussi cette volonté, soit d'aller tester la limite, soit de la dépasser.
Ouais.
Oui, et moi, j'ai fait une overdose où vraiment, j'ai fait crever. Et il y a un autre truc, j'ai pris ces drogues-là, et là, je fais un message avec des antidépresseurs à ne certainement pas faire. Ça peut te provoquer une rupture d'anévrisme d'un coup. Genre vraiment, j'ai eu de la chance. Genre, je l'ai fait une fois, je me suis senti bizarre. Et après, je me suis renseigné, et en fait, ça peut ton cerveau claquer d'un coup et t'es mort. Donc, il y a vraiment ce truc. Et je ne m'étais pas renseigné avant, ce qui est une forme de mise en danger aussi. Donc, je pense que dans des moments d'extrême comme ça, on cherche aussi à tester la limite, voire à la dépasser pour de bon, quoi.
Après, c'est marrant que tu utilises, enfin, c'est marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais tu utilises le mot récréatif. Et moi, je distingue vraiment la consommation. Pour moi, ce n'est pas une consommation récréative à partir du moment où tu consommes pour. Oublier quelque chose pour lutter contre des démons intérieurs, il y a plein de raisons, mais en fait je distingue beaucoup la consommation pour moi qui est se mettre mal parce qu'il y a pour compenser un mal-être, etc. Et pour moi la consommation récréative,
oui, ou c'est le fun,
c'est plus le fun. Et je pense qu'il faut vraiment distinguer cette consommation, que ce soit d'alcool, de drogue, il y a aussi des abus sur la nourriture, qui expriment un mal-être qui, pour moi, a vraiment encadré et a soigné. En fait, il faut soigner le mal-être avant de soigner la consommation. C'est une addiction en fait, qui est liée à un vrai mal-être. Et après, pour moi, il y a la consommation vraiment récréative, que moi j'appelle récréative, de je bois parce que je suis dans un moment... sympa et que j'aime la fête, ou même pas que la fête, où j'aime juste, moi j'adore le vin, j'adore la bière, je les consomme aussi parce que j'aime le goût, et je consomme des drogues de temps en temps à des moments. En fait, maintenant je l'ai eu aussi à des périodes où j'étais très mal dans ma vie, j'en consommais beaucoup parce que pareil, c'était pour compenser un mal-être. Et maintenant je m'oblige à me poser moi-même la question de me dire, là, à partir du moment où j'en prends, est-ce que c'est parce que je veux compenser, est-ce que je veux me défoncer?
Tu analyses, ouais.
Ouais, j'essaye, c'est beaucoup de théorie, mais en fait, j'essaie de plus en prendre en me disant, c'est parce que je compense. Alors, c'est facile de se dire ça quand on est dans une bonne période de sa vie, c'est plus facile aussi. Mais vraiment, j'essaie de plus aller dans ces consommations pour compenser
le mal-être.
Ouais. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, on peut pas être avec quelqu'un qui a une relation avec... La drogue, parce que je pense que cette consommation-là, elle est aussi elle est liée à un vrai souci.
À un mal-être.
À un mal-être. Ouais. Et du coup, effectivement, moi, j'ai eu une relation avec un homme qui était vraiment, vraiment, vraiment addict. Et je confirme que tu ne peux pas. Mais parce qu'il y avait il y avait une consommation vraiment maladive de parce qu'il y avait un réel mal-être. Et en fait, ces relations-là, tu es toi-même aspiré après dans ce tourbillon de mal-être. Et c'est hyper compliqué. Après, on est dans une vraie société de culture de l'alcool, je trouve, où on Bah, c'est tout le monde, il y a beaucoup de gens qui en consomment, et on trouve ça normal. Et moi, j'adore l'alcool. mais je pense qu'il faut vraiment se dire aussi, il y a aussi des abus et qui peuvent être liés à... Mais comme la nourriture, tu vois, il y a aussi plein de gens qui ont des troubles alimentaires. La nourriture, à la base, c'est quelque chose de sain, mais ça peut aussi devenir un...
C'est réconfortant aussi. Ouais, quand le mal-être est là, ça peut être une source, je pense, à des crises de boulimie.
Exactement.
Pour certains potes et tout. J'avoue que l'alcool, en fait, en juillet, il s'est passé un truc. J'ai eu le plus gros blackout de ma vie. Et en fait, je me suis réveillée, j'étais sur le trottoir. Je rigole maintenant parce que je me revois encore faire. Mais où est-ce que je suis? En fait, ça m'a tellement trauma. J'étais vraiment traumatisée. Et en fait, à partir de juillet, je ne bois plus comme avant. Mais vraiment, et c'est là où je fais aussi un trigger warning. C'est évidemment que je ne fais pas l'apologie de l'alcool. Ça a été un refuge pour certains moments. Mais en fait, j'en suis allée au point à me rendre malade. Parce qu'au final, et tu sais que genre c'est 2 semaines après où je me suis dit, je sais pourquoi j'ai bu. Je sais. Voilà, je m'en suis rappelée. Je me suis pas rappelée du moment, évidemment. C'était très tragique. Et je me dis, je me suis mise dans une situation mais de danger, mais plus, parce que j'étais sur le trottoir à Paris. Et je me suis réveillée, j'avais plus mes affaires. Et j'ai vu aussi les gens, la réaction des gens. En fait, tu sais, j'étais tellement pétée que je tapais sur les carreaux. Il faut que je retourne au bar et tout pour récupérer mes affaires. Et en fait, je m'en suis voulu, mais là, je m'en veux encore. Et évidemment que je fais attention. Et il faut en arriver à là pour se dire, il y a peut-être un truc qui cloche. Et je me dis que peut-être si j'avais pu... et pourtant, je suis en thérapie, tu vois. Et je m'en veux. Et je me dis que non, évidemment, il faut faire attention. Et maintenant, peut-être que je regarderai peut-être plus aussi les gens qui sont dans une consommation plus, et que je vais peut-être leur dire, est-ce que ça... Enfin, tu sais, de leur poser peut-être la question, ça va Enfin, voilà, moi, je suis là. Et c'est vrai que tu fais peut-être plus attention. Enfin, il faut en arriver là pour ça. Et les drogues, c'est pareil. Hein. Les drogues, c'est pareil. Enfin, je veux dire... moi, c'est con, mais tu te dis, les extas, ça te fait... Enfin, tu rentres dans une autre dimension, en fait. Et cette dimension-là, elle est différente de ta vie, sur le moment T, tu vois. Et tu te dis, waouh, en fait, je peux échapper à mes putains de problèmes. Mais en fait, c'est pas exactement ce que tu disais, Charlotte. C'est pas la façon dont on peut régler les soucis. En tout cas, toi, tu le vois sur le moment, parce que t'as peut-être pas pensé à d'autres trucs. Mais c'est là où je me dis l'enjeu d'une thérapie ou l'enjeu d'en parler à des personnes de confiance ou de pouvoir communiquer, ne serait-ce que sur ces problèmes. Mais des fois, t'as des problèmes tellement gros. Et c'est tabou aussi, justement, de te dire, j'ai trouvé refuge là, mais j'essaye de m'en sortir. Enfin, j'y arrive peut-être pas. Et il faut trouver des gens à qui en parler. Je pense que c'est important. Toi, t'as déjà trouvé refuge dans la drogue et tout ça, là, Claire ?
Non. Non, parce que j'ai été élevée par des parents qui m'ont toujours fait flipper de ouf sur les drogues. Donc, j'ai jamais été... j'ai toujours eu très peur. Ouais. J'ai toujours eu très peur. J'en consomme de temps en temps, mais c'est ultra occasionnel, genre peut-être une fois par an. Et encore, il faut que ce soit un cadre qui soit très spécifique. Il faut que je sois avec des potes, il faut que ce soit un moment qui soit festif, etc. Enfin, voilà. Mais non, moi, j'ai eu d'autres addictions qui m'ont fait beaucoup de mal. Notamment le sexe avec sous alcool, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas coucher avec un mec sans me mettre une race de
fou.
Parce que j'avais vécu un trauma. Je suis passée par une période qui a duré 2 ans, c'était il y a 6-7 ans, et en fait il m'arrivait quelque chose et je suis passée par cette période où je me suis totalement détruite. Il fallait que je pousse toujours les limites, fallait que j'aille encore plus loin. Je me suis retrouvée dans des situations. Aujourd'hui, je me demande, pourquoi j'ai fait ça? Je pense qu'il fallait que j'extériorise un mal-être. Et chez moi, c'est passé par le sexe et l'alcool. À outrance, à en perdre ma dignité et mon respect de moi-même. Mais aujourd'hui, ça va.
Ouais, non, mais ça je va pense mieux. Que toutes les addictions, en fait, vraiment, quelles qu'elles soient, je pense que toutes les addictions, il y a un vrai mal-être derrière. Et c'est pas le débat de dire effectivement l'alcool c'est bien, l'alcool c'est mal, les drogues c'est bien ou c'est mal. Après, chacun a son avis là-dessus, mais c'est plus de dire à partir du moment où ça devient une addiction, souvent c'est symptomatique derrière d'un mal-être, d'un traumatisme, de plein de choses. Mais en fait, c'est l'addiction. Enfin, pour moi, Je reste persuadée que c'est pas l'alcool, la nourriture, le sexe qui est, enfin, en soi qui sont mal. C'est l'addiction en fait à ces choses-là qui sont beaucoup moins bien et qui doivent être et à la fois effectivement ce que tu disais avant verbalisées et souvent il faut un accompagnement derrière. En fait, faut soigner. En fait, pour soigner l'addiction, il faut soigner vraiment le mal-être, le traumatisme, ce qu'il y a en fait.
Chose pas aisée pour certaines personnes. Et sur le moment, c'est vrai que peut-être tu manques de moyens, parce qu'une thérapie, ça coûte excessivement cher. Donc apparemment, il y a des consultations de psychologues qui vont être remboursées à partir de 2022, de janvier 2022.
C'est déjà le cas depuis, il me semble.
Ouais.
Que tu as le droit, je crois, 4...
Enfin, ça devrait
je travaille pas dans une mutuelle, mais... Je l'avais vu passer.
On a la mutuelle familiale qui est là.
Je l'avais vu passer que ouais, il y a un certain nombre de consultations par an maintenant qui sont prises en charge depuis la crise du Covid où il y a beaucoup de gens qui ont été.
Quelle crise ?
Tu vas être confiné dans 2 semaines là.
Ah bon ? Le petit machin là dont on a un peu parlé ces derniers temps.
Confie quoi ?
Vu qu'on a dépassé le temps convenu, alors évidemment, on aimerait parler de tellement de sujets, enfin, c'est vrai qu'ils rentrent dans les sujets sensibles, on aimerait bien explorer beaucoup de sujets, ça se trouve on va peut-être se retrouver, hein, qui sait. J'aimerais bien finir juste sur une dernière question. Alors c'est pas du tout le même ton que notre épisode, c'est pas logique du tout, mais qu'est-ce que vous détestez que les autres aiment? Voilà, je vous pose cette question juste pour finir sur une note. Allez, moi par exemple je me lance, je n'aime pas les choses des séries mainstream, tu sais, genre à Casa del Papel, juste je n'ai jamais regardé, c'est de la merde. J'ai regardé le pilote, c'était nul. Squid Games, juste flemme de regarder. Et les choses que, tu sais, que les gens te disent, ah, t'as pas regardé et tout. Non, en fait, juste laisse-moi tranquille. Je pensais à ça juste pour finir cet épisode bien lourd. En fait, qui n'a aucun lien. Non, mais c'est un peu sensible des fois de dire, non, moi j'aime pas en fait, je suis pas très fan. T'es là en mode, ah bon, mais pourquoi? Oh, tu vas pas faire comme tout le monde. Flo, est-ce qu'il y a des choses que tu détestes que les autres aiment?
C'est pas que je déteste. Après, moi j'ai un problème avec la hype, mais je pense parce que je suis. J'ai pas encore compris pourquoi, mais quand tout le monde aime quelque chose, je me dis, il y a un souci. Genre, ce qui est con, hein, j'attends 2-3 ans avant de regarder les trucs que tout le monde a regardé il y a 2-3 ans, et après j'arrive en me disant hey, tu te rappelles ça, il y a 3 ans c'était bien. Et bah ouais, et quand tout le monde en parle, genre je suis là, non je regarderai pas.
C'est ton côté rebelle.
Mais je sais, je pense qu'il y a un truc de...
Je veux pas faire comme tout le monde.
Ouais, mais je me dis, est-ce que c'est un enjeu d'ego ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans, de me dire, je sais pas, peut-être que j'ai pas envie de me faire... J'ai envie d'y trouver un intérêt propre et pas me faire aspirer par, peut-être par la une pression sociale. Donc je pense que c'est pas que de l'ego. Donc je rejoins ce truc sur les séries un peu hype et tout. Après, tu vois, là, genre récemment, j'ai regardé Loki parce que tout le monde m'en parlait. C'est vrai que c'est une série pas mal. Le dernier album d'Orelsan, je me suis jeté dessus, mais parce que vraiment moi j'aime ça, donc je le fais pas pour la pression sociale. Après, il y a un autre truc que j'aime pas, mais que je sais pas si tout le monde aime, mais je vois que ça fait son effet, c'est les trucs de développement personnel ou trucs un peu de pratique genre sophro, yoga et tout, où c'est toujours le même ton, où il faut parler avec beaucoup d'air comme ça, détendez-vous, c'était les papillons le sont beaux, et je suis là genre ça m'énerve, c'est pas la vraie vie, tu vois. Il y a des moments où moi j'ai pas envie qu'on me calme, genre j'ai pas envie qu'on me dise non mais il y a quand même des belles choses, mais ça c'est moche. Donc, et je trouve que c'est vachement sous-coté d'utiliser d'autres moteurs émotionnels qui sont aussi ok, alors pas spécialement la colère, mais peut-être l'enthousiasme plus vif ou l'humour. C'est vraiment un truc que je ne retrouve pas dans les trucs de développement personnel. Et voilà, moi conseil gratuit marketing à ceux qui veulent se lancer. Je pense que le compte qui arrivera à allier quelque chose de plus ordinaire avec le développement personnel ou avec la détente, vraiment arrivera à se distinguer et fera quelque chose de la vraie vie aussi, quoi.
Ok. Bon,
c'est un message du cœur.
Mais ouais, ça m'énerve. Content, là. Les trucs de yoga, genre, et ça me parle pas en plus. Ça, vraiment,
pourtant,
ça,
je pense que ça. Voix,
parce que je lance mon compte de yoga.
Ça me rend
en fait
encore plus anxieuse que je ne le suis, moi, le yoga et la relaxation.
Ah ouais ?
Ouais. Ça me.
Ah, ouf, non, mais ça me pas,
tend. Ça me tend. Ah ouais, je
dis. Mais à cause du ton ?
Non, c'est tout ce truc de. C'est comme si on t'invitait à être dans l'obligation d'être relaxé et de te détendre l'esprit. Mais moi, ça me détend.
Ils sont pas détendus, les deux, là.
Ah non, ça me tend.
Et t'aimes bien la lithothérapie
ouais. Les pierres, les énergies, ça me parle, mais pas du tout. Je suis hermétique à tout ça, quoi. Mais moi, ce que je déteste et que tout le monde aime, c'est la filmographie de Wes Anderson.
Oh, ils sont trop bien, ces films.
Bah voilà.
Ah bah voilà.
Je n'aime pas non plus le Pays Basque.
Ah non, attendez, elle va aller encore plus loin. T'aimes pas les mecs aussi? Alors,
oh,
un mec, il lui dit je viens de Biarritz, alors là.
Ouais. Il en est hors de question.
Ah ouais. Ouais. Je suis
ah, j'aime pas la chaleur non plus aussi, je rajoute. Je déteste quand les gens me disent « Il fait trop froid, j'ai trop envie d'être au mois d'août, là, qu'il fasse 30 à Paris. » Ta gueule. Laisse-moi dans mon froid. Putain. Et toi, Charlotte, qu'est-ce que tu détestes ?
Alors, c'est assez ironique, mais la meuf, je suis pas à réseaux sociaux. Enfin...
Putain, mais tu te fous de gueule. Non, mais vas-y.
Je suis pas réseau social. Enfin, je n'ai jamais eu de compte personnel en fait. Je
tu suis n'as pas réseau social en tant que Chacha.
En tant que Charlotte. Charlotte Chacha, c'est toi.
Ça veut dire Charlotte. Que tu te prends jamais en selfie ?
Exactement.
Bah alors.
Genre, par exemple, je n'ai jamais fait de selfie de ma life. Enfin, j'ai eu Instagram depuis. J'ai Instagram depuis même pas. Depuis mon compte en fait, depuis
ton
janvier.
Compte célibataire, la vraie, ouais.
Non, en fait, j'avais créé un compte que j'utilise en fait pour regarder d'autres comptes que j'avais créé.
En fait, Charlotte, c'est la meuf qui te regarde, c'est la stalkeuse.
Non, mais j'avais créé un compte.
Un compte de voyeuse.
J'ai un compte de stalkeuse. Oui. Mais où je n'ai personne de personne, j'ai que des abonnements à des comptes féministes, des comptes de médias, etc. J'utilise vraiment les réseaux sociaux comme un média. Et j'ai jamais adhéré, enfin accroché au côté effectivement.
Je fais une photo de mon breakfast.
Ouais, voilà, tout ce côté réseaux sociaux personnel en fait. Enfin, okay. Raconter ta life, ce que je fais, c'est hyper, personne va rien comprendre, mais ce que je fais, enfin via la célibataire, mais de manière un peu indirecte, j'raconte ma vie, mais de manière très indirecte. Et c'est aussi pour ça que pour l'instant. Je reste anonyme parce que je veux en faire un compte où on peut s'identifier. Mais par contre, vraiment, les comptes où, effectivement, tu mets des photos de tes enfants, de ce que tu as mangé, de tes vacances à outrance, j'ai jamais trop adhéré. Ouais. J'ai jamais rien publié sur les réseaux sociaux, sur mes deux comptes personnels. Ouais.
Pardon. Mais parce qu'avec la célibataire, tu as un objectif qui te dépasse. C'est genre, tu as un message à porter. Bah, donc, du coup, ça devient. Quoi ?
Non, mais clairement, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est
non,
ça.
Non, mais j'ai coupé aussi, faisons une chaîne. Non, mais ça devient
moi,
un
je te
moyen.
Coupe, je te coupe.
Allez, vas-y.
Tu t'es créé un personnage.
Mais c'est pas... Ouais, en fait, parce que quand j'ai créé ce compte, c'était dans le but, en fait, d'aborder tous ces sujets qui sont...
Ils sont tabous aussi.
Qui sont tabous, exactement. En fait, moi, je suivais des comptes qui parlaient sexo, qui parlaient de plein de sujets, qui me parlaient en me disant... Putain, en fait, merci d'aborder ces sujets-là, parce que ça m'aide à me sentir mieux, à me sentir moins sale, etc. Et je ne trouvais pas justement de compte qui abordait les relations de manière générale et cette vision en fait de vivre le célibat en 2021. Et du coup, j'ai créé ce compte en me disant « parlons de ces sujets-là qui sont effectivement peut-être un peu tabous ou que des gens vivent mais n'osent pas parler, etc. » Et du coup, que j'aborde. Et c'est bien sûr que c'est un personnage parce qu'il y a des situations qui sont extrapolées. Il y a quasiment toutes les situations dont je parle, je les ai. Les mêmes sont vraies, sont inspirées de ma vie.
C'est pour ça qu'on se reconnaît de ouf.
Mais oui, c'est pas. J'en ai pas fait un compte où je veux parler de ma vie, de ma vie à moi. Je veux aborder ce pan de ma vie parce qu'en plus, ma vie ne se résume pas au célibat, heureusement. Mais j'avais envie, effectivement, d'en faire un truc où on peut se reconnaître. Mais en fait, les réseaux sociaux, par contre, ouais.
Tu détestes.
C'est pas que je déteste, mais j'ai jamais trop compris l'intérêt.
Oui, c'est à l'ère où on utilise presque tous les réseaux sociaux. J'avoue, j'avais fait un break de 2 mois. J'étais trop fière. J'étais, je suis plus sur Instagram, machin. Pour une raison qui m'est personnelle, je suis revenue pour retrouver certains messages. Tu sais quoi, je suis dégoûtée. Je commence à retrouver. Tu sais, je suis là, elle a fait ça.
En fait, je trouve qu'il y a un côté un peu masochiste sur les réseaux sociaux de dire. Moi, ça m'a jamais. Aider à me sentir... Encore une fois, je parle de ces comptes personnels, de regarder comment ma life est géniale. Oui. Je trouve que ça te fait sentir... Enfin, moi, ça ne me fait pas me sentir bien, en fait.
Non.
De me dire, putain, cette personne-là fait telle chose, moi, où j'en suis... Enfin, tu vois, ça te met à chaque fois un espèce de miroir de ta vie. Et en fait, ça me... Je prends pas... moi, je considère que quand tu fais quelque chose, ça doit t'apporter des trucs positifs.
Bien sûr.
Et c'est en plus, c'est pour ça aussi que mon compte est souvent orienté sur le côté positif, parce que je me dis, j'ai pas envie que les gens, en lisant des choses, se sentent moins bien qu'avant, en fait. Et je trouve que quand tu es sur les réseaux sociaux à suivre des comptes personnels, il y a un peu ce côté où tu te sens un peu... Tu te sens pas mieux, en fait, après. Enfin, je sais pas.
Avant, je me rappelle sur Instagram, je sais pas si vous vous rappelez, au tout début d'Instagram, il y avait une section où tu voyais ce que likaient les autres, enfin tes amis. Ouais. Et en fait, tu avais juste à faire un clic et tu voyais, X a liké la photo de Bidule il y a tant de minutes. Donc ils l'ont enlevé, ça s'est enlevé assez rapidement. Ça, c'était l'angoisse. Mmh. C'est comme le vu sur nos WhatsApp, etc. En fait, tu voyais ce que les autres faisaient. Heureusement qu'ils l'ont retiré parce que ça rend les gens parano en fait. Moi je trouve que les réseaux te rendent parano et te font sentir mal. Alors c'est pour ça qu'il faut sélectionner aussi ce qu'on veut regarder, ce qui nous fait du bien. Et c'est dur aussi. Enfin, ça reste encore un petit peu touchy parce que tu te dis bah non, t'as envie de regarder un petit peu ce qui se fait forcément. Et des fois l'algorithme fait que des informations viennent à toi alors que tu t'y attends pas et t'es obligé. En fait, c'est dans ton feed, tu vois, c'est dans. Et l'algorithme fait aussi que... Enfin, moi, je déteste, par exemple, l'algorithme. En fait, au final, on est tous esclaves de l'algorithme, en fait. L'algorithme fait qu'on te dessert des publicités qui sont visées. Et voilà. Donc, on vous remercie beaucoup venu.
Ben, merci de l'invitation.
Merci Flo, merci Charlotte. Merci Claire aussi.
Merci Chacha.
De m'accompagner. C'était dense. Si tu battes pas après cet épisode... Non, mais ça nous intéresse d'avoir votre avis, vos retours sur ce premier sujet. Bah, on a attaqué les sujets sensibles. C'est vrai que là, le trigger warning, il est assez important, mais c'était cool d'en parler avec vous et d'avoir votre point de vue. On rappelle les comptes de nos invités. Donc Flo, tu tiens le podcast Mise à Mal.
Mise à Mal, Mal comme un mal, dispo sur toutes les plateformes et sur Instagram, Mise à Mal Podcast.
Voilà, et vraiment... Là, le dernier épisode sur l'amitié, ouais, et vraiment, il est top. Il est vraiment trop bien.
Merci beaucoup.
Et Charlotte, on rappelle ton compte, donc La Célibataire La Vraie sur Instagram. Oui. Voilà, donc on y va. Hein.
on venez, like. Venez, hein. Venez, on est bien. On est bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Salut.